Il arrive qu'il fasse un très vilain temps dehors, surtout en hiver ou en pleine mer. Mais au sens figuré, ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. On a alors l'impression que tout est en train de basculer du mauvais côté. D'ailleurs, et assez curieusement, l'apôtre Paul parle de mauvais jours, car il existe bel et bien. Il écrit « Endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qu'il était possible. » Moïse est en train de vivre de très mauvais jours, car il doit faire face à une rébellion après l'autre du peuple, et puis, entre deux orages, au lieu d'une accalmie, voilà que son frère et sa sœur s'en prennent à lui. En réalité, ils sont jaloux de l'autorité dont jouit leur frère cadet auprès du peuple. Ils veulent une part du gâteau. Cela vous est-il arrivé, qu'on vous en veuille par jalousie, qu'on vous fasse un croc en jambe et que vous preniez une gamelle? À moi, oui. C'est très désagréable, parce qu'en général, on ne s'y attend pas du tout. C'est aussi le cas de Moïse, qui n'a rien vu venir, parce qu'il est humble de cœur et ne soupçonne pas qu'on a mis un piège à loup à l'entrée de sa tente. Cet homme porte en lui l'image du Messie, le prophète qui viendra, et il a annoncé par l'Éternel ce qui nous est rapporté vers la fin de la Torah ou du Pentateuque, c'est-à-dire les cinq livres de la loi. Je lis ce passage prophétique dans lequel l'Éternel dit à Moïse « Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. » Moïse est un précurseur de Jésus, d'une part, du fait de sa relation intime avec Dieu et son ministère de libérateur et dirigeant du peuple, et d'autre part, du fait que son caractère humble, qui annonce la miséricorde du Fils de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes accablés sous le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. » Je continue maintenant à lire le chapitre 12 du livre des Nombres. L'Éternel se mit en colère contre Myriam et Aaron, et il se retira. À peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. On dirait qu'au fur et à mesure que l'Éternel récapitule la culpabilité de Myriam et d'Aaron, il est davantage indigné, et sa colère qui, jusqu'ici, était contenue, finalement éclate. Très mécontent, il retourne se placer au-dessus du lieu très saint, où il réside habituellement. Mais, en passant, il frappe Myriam de lèpre. Je continue. Alors, Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. Ah, que notre sœur ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la moitié du corps et se trouve déjà en état de putréfaction au moment de sa naissance. » Aaron est épouvanté et craint que malgré sa charge de grand prêtre, il deviendra lui aussi comme Myriam, qui est comparé à un enfant mort-né, parce que chez un lépreux, comme dans bien d'autres maladies, le processus de la mort est enclenché, actif et irréversible. Aaron n'a pas été directement puni comme sa sœur, car ce n'est pas lui qui a initié cette révolte, mais il est malgré tout coupable de s'être laissé entraîner par Myriam. Une fois encore, Aaron s'est montré influençable et de caractère faible. C'est un brave homme, mais il est pathétique. Il a malgré tout le mérite d'avoir rapidement reconnu et confessé sa faute. Il reconnaît maintenant, sans arrière-pensée, la supériorité absolue de son frère cadet. Il est humilié. Connaissant sa magnanimité, sa générosité et sa bienveillance, lui et Myriam ont besoin de son intercession, car ils savent que le pardon de Dieu dépend de celui de leur frère. Je finis le chapitre 12. Moïse implora l'Éternel. « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la !» Mais l'Éternel lui répondit. « Si ton père lui avait craché au visage, n'emporterait-elle pas la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle sera réadmise parmi vous. » Myriam fut donc exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne leva le camp que lorsqu'elle y eut été réintégrée. Après cela, ils quittèrent Hatséroth et campèrent dans le désert de Paran. Bien entendu, Moïse écoute la prière de son frère et se rend dans le lieu saint de la tente de la rencontre, se place devant le rideau qui le sépare du lieu très saint et invoque l'Éternel qui ne manque pas de lui répondre. Ce sont véritablement deux amis. On sait qu'à cette époque, cracher au visage est un outrage très grave, mais l'Éternel fait allusion à une coutume qui nous est inconnue. Myriam doit donc subir 7 jours d'exclusion humiliante pour lui apprendre les bonnes manières. C'est pour elle un temps qu'elle doit mettre à profit pour un sérieux retour sur elle-même, une profonde repentance. Malgré la guérison et le pardon de Dieu, elle doit subir le traitement infligé aux lépreux. 7 jours est la période pendant laquelle quelqu'un susceptible d'être rituellement impur à cause d'une maladie est placé en observation. Dur, dur, le départ d'Israël depuis le Sinaï. À partir du moment que le peuple s'est mis en marche, l'avancée est chaotique. Ça coince de partout. Tant que les Hébreux en étaient au stade de préparation, l'harmonie, l'ordre et l'obéissance régnaient dans le camp. Mais toute cette bonne volonté a cédé le pas au gémissement et à la rébellion. Le peuple s'est d'abord laissé entraîner à se plaindre contre l'Éternel par le ramassis d'étrangers qui fait route avec lui. En méprisant la manne, Israël rejette la bienveillance divine. Il va même jusqu'à regretter sa libération d'Égypte et exprime le désir d'y retourner. Devant tant d'ingratitude, l'Éternel doit juger sévèrement les contradicteurs. Le texte met bien en valeur la colère et la justice de Dieu. Nous arrivons au chapitre 13 des Nombres, qui est un passage clé et un tournant du livre, car il raconte la mission des 12 espions qui partent en reconnaissance explorer la terre promise, ainsi que le rapport dévastateur de 10 d'entre eux qu'ils font au peuple. Ce chapitre est particulièrement triste parce qu'il raconte la révolte qui eut lieu à Kadesh et qui est la raison de la condamnation de toute la génération des 20 ans et plus sortie d'Égypte. Cette histoire introduit l'une des périodes les plus déprimantes du peuple d'Israël. Je commence à lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu peux envoyer des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » D'après ce texte, Moïse obéit à l'Éternel et envoie des espions parcourir la terre promise. En fait, cette directive divine est une réponse à une demande du peuple d'Israël. Celle-ci avait pourtant là, encore, l'occasion d'obéir à Dieu, en se préparant à envahir le pays de Canaan sans chercher midi à 14 heures. Mais non, les Israélites ne lui font toujours pas confiance et veulent prendre les choses en main. Leurs chefs se sont probablement réunis et ont décidé, d'un commun accord, qu'il faut envoyer des éclaireurs pour voir exactement où ils vont mettre les pieds. Comme ça, ils sauront à quoi s'en tenir et pourront assurer leur arrière. ils ne prennent pas en compte la présence de l'Éternel au milieu d'eux. Dans le livre du Deutéronome, les faits sont présentés par Moïse de la façon suivante. Je lis. Après cela, nous sommes partis du mont Horeb. Nous avons traversé tout ce vaste et terrible désert que vous avez vu, en nous dirigeant vers la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Je vous ai dit alors, vous voilà arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, vous donne. Regardez, l'Éternel, votre Dieu, met le pays à votre disposition. Allez-y, prenez-le en possession, comme l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a dit. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Alors vous êtes tous venus me trouver pour me dire, « Nous voudrions envoyer quelques hommes en avant pour qu'ils fassent pour nous une reconnaissance du pays et qu'ils nous renseignent sur la route que nous devons prendre et sur les villes où nous devons aller. » La proposition m'a paru bonne et j'ai pris 12 hommes d'entre vous, 1 par tribu. Donc, les anciens du peuple viennent vers Moïse pour lui demander d'envoyer des espions en reconnaissance. Moïse trouve que, ma foi, c'est pas une mauvaise idée. Mais avant d'accéder à cette requête, il la soumet à l'Éternel, ce qui est très compréhensible. Dieu lui répond, alors littéralement, « Envoie-toi » ou, en bon français, « Tu peux envoyer des hommes » dans le sens « D'accord, je veux bien, mais j'aurais préféré qu'ils me fassent confiance. » Les responsables d'Israël veulent explorer le pays afin de recevoir de la part des espions un rapport qui encouragera le peuple à foncer. En l'occurrence, ils désirent une confirmation que, d'une part, ce pays est très riche, ruisselant le lait et le miel, et d'autre part, les Cananéens sont très vulnérables. C'est un très mauvais calcul. Je continue. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Suit alors une liste des noms de 12 jeunes hommes vigoureux, reconnus et approuvés par leur tribu. Ils partent donc en reconnaissance. La tribu de Lévi n'est pas mentionnée parce qu'il s'agit d'une expédition à caractère militaire où ça risque de cogner. Or, ce n'est pas une tribu guerrière. Sur les 12 hommes partis en mission, 2 nous sont connus, car leur nom revient souvent. Il s'agit de Josué, dont le nom est l'équivalent hébreu de Jésus, et qui veut dire « l'Éternel sauve ». Il est l'aide de camp de Moïse et représente la tribu d'Éphraïm. Le 2e est Caleb, qui est envoyé par la tribu de Juda. Il est intéressant de noter que plus loin dans le livre, Caleb est appelé Kénizien, une peuplade qui ne descend pas d'Abraham. Ce fait signifie qu'en ce qui concerne l'intégration d'étrangers dans le peuple choisi, Moïse n'a pas peur de balayer large. Quand les espions reviendront faire leur rapport, Josué et Caleb seront les seuls qui, malgré l'âpreté des combats en perspective, voudront conquérir le pays de Canaan parce qu'ils ont foi dans les promesses de l'Éternel. Je continue le texte plus loin. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Négev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » C'était en effet l'époque des premiers raisins. Cette information du texte, c'était l'époque des premiers raisins, permet de situer à peu près quand a eu lieu cette mission. En effet, en Palestine, les vendanges se font en septembre, mais on a déjà des raisins mûrs au mois d'août, et même fin juin. Ce détail, en passant, s'accorde bien avec le fait que le peuple a célébré la Pâque avant peu son départ du mont du Sinaï. Nous sommes donc probablement vers la fin août. Les expions vont d'abord passer par la région du Néguev, ce qui signifie « terre desséchée ». Aujourd'hui, ce n'est qu'une steppe couverte de pâturages ou de buissons. Mais au temps de Moïse, elle est très peuplée. Le mot pour « ville » désigne un lieu habité. Que ce soit une ville fortifiée, un village ou un simple campement. Le livre de Josué, qui est le sixième de l'Ancien Testament, énumère 29 villes avec leurs villages situés dans la région du Néguev. Je continue tout en résumant. Ainsi, ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Labo Hamat. Ils montèrent dans le Néguev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Aïmam, de Shegaï et de Talmaï, descendants d'Anak. Je mets beaucoup de noms qui ne veulent rien dire, ni pour vous, ni pour moi. Cependant, ils prouvent bien que les textes sacrés sont enracinés dans l'histoire et la géographie, ce qui fait que les lieux topographiques sont importants. Pour comprendre le texte, il suffit de savoir que les expions partent ensemble du sud-ouest de la mer Morte. D'après d'autres textes parallèles, leur ordre de mission est le rapport détaillé qu'ils font de leur retour. Il est évident que les 12 espions se sont divisés en plusieurs groupes, probablement 6 de 2 hommes chacun. Ils se sont alors répartis les différentes régions du pays à visiter, puis se sont donné rendez-vous à un lieu de rassemblement avant de revenir tous ensemble. Ceux qui ont fait 200 kilomètres pour aller au nord de Damas en Syrie, dans ce qui est le Liban aujourd'hui, n'ont pas dû traîner en route, car ils ont fait un périple d'au moins 400 kilomètres aller-retour. En tout, les 12 hommes ont passé 40 jours à explorer le pays. Dans tous les noms qui nous sont donnés, celui d'Anak est important, car ce sont les premiers habitants de Canaan. Ils sont décrits comme des géants qui ont terrorisé ceux qui les ont vus. Le texte dit « Il parvint à Hébron ». Mais en hébreu, c'est un singulier. « Il vint à Hébron ». Il s'agit très probablement de Caleb, car d'après le livre de Josué, c'est lui qui a visité cette partie du pays et qui l'a reçu en héritage à cause de sa fidélité à l'Éternel. Situé au sud de Jérusalem, Hébron était bien connu des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Elle est fréquemment mentionnée dans la Genèse. C'était une grande cité cananéenne, très fortifiée. Je continue le texte. Arrivé dans la vallée d'Elkol, qui veut dire « vallée de la grappe », ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des fruits. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Elkol, de la grappe, en souvenir à la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. La vallée, située entre la ville d'Hébron et Jérusalem, est bordée de collines couvertes de vignobles et qui produisent aujourd'hui les plus beaux raisins du pays, une grappe pouvant atteindre jusqu'à 6 kilos, à ce qu'il paraît. Je continue. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. ils leur rendirent compte de leurs expéditions et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Négev. Les Hittites, les Yéboussiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Kadesh est un croisement de leur désert au sud de la Palestine. C'est là que se trouve le camp d'Israël, et que les espions reviennent faire leur rapport à Moïse et aux hommes de guerre de la nation. Avec le beau raisin, les espions ont vu de nombreuses peuplades bien implantées. Les Cananéens désignent soit les habitants de la Palestine en général, soit comme ici, ceux qui sont situés sur le littoral et dans la plaine du Jourdain. Le pays comprend aussi des descendants d'Anak, les Anakim, une race de géants établie dans le sud de la Palestine et connue sous le terme plus général de Raphaïm. À une époque, le patrimoine génétique humain permettait des géants de 3 mètres et bien formés et normaux. Mais aujourd'hui, il est quasi certain que ce potentiel génétique est perdu. En tout cas, la description des habitants de la terre promise effraie le peuple qui commence déjà à murmurer. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 13. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien les faits que nous leur faisions. Caleb ne conteste pas les dires des autres espions, mais il rejette leurs conclusions. Lui, il croit qu'il est tout à fait possible de faire la conquête du pays de Canaan, et il est prêt à foncer. Les géants, aussi appelés Néphilim, sont déjà mentionnés dans le livre de la Genèse, avant le jugement du déluge. Ce passage ne mentionne pas Josué, qui n'a sans doute rien dit, parce qu'il est étroitement associé à Moïse, étant son aide de camp. Mais on sait que lui aussi est prêt à conquérir le pays parce qu'il croit que l'Éternel leur donnera la victoire. Les 10 autres espions souffrent de la sauterellose, ou l'effet sauterelle. Ils ont une peau bleue qui altère leurs proportions, qui les rapetissent et en même temps qui grossit la force de leurs adversaires. L'expression « le pays » est une terre qui consume ses habitants, signifie qu'il est exposé aux invasions et qu'une peuplade est facilement anéantie et remplacée par une autre. Dans le livre du Deutéronome, on apprend que dans la Palestine, différents peuples ont habité au même endroit, les uns chassant les autres. Je lis un passage. J'ai donné ce pays d'Ar en possession aux descendants de Lot, c'est-à-dire les Moabites et les Ammonites. Autrefois, les Hermines y habitaient. C'était un grand peuple nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient eux aussi, de même que les Anakim, pour les Rephaïm et les Ammonites, les appelaient Amim. Auparavant, le pays de Séir était habité par les Oriens, mais les descendants d'Ésaü les ont chassés. Ce pays des Ammonites aussi passait pour avoir été habité par les Réphaïm. Ceux-ci l'occupaient autrefois et ils étaient appelés Zam, Zum, Mim par les Ammonites. C'était un grand peuple, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Mais l'Éternel les avait détruits par les Ammonites. Ils avaient pris possession de leur pays pour s'établir à leur place. Les 12 espions ont essentiellement fait la même expérience et vu les mêmes peuples et les mêmes villes. Mais leur interprétation des faits est très différente selon qu'ils croient ou pas que l'Éternel leur donnera la victoire. Deux font un rapport qui est inspiré par la foi. Ils reconnaissent que les difficultés sont réelles. Mais regarde à Dieu, pour vaincre leur ennemi, même les géants. Les 10 autres font le plus de bruit, et comme ils sont inspirés par la peur et l'incrédulité, ils raisonnent en termes purement logiques et humains. Ils vont même jusqu'à dire que la conquête du pays est impossible et suicidaire et qu'ils sont battus d'avance. Quant au peuple, au vu de sa conduite passée, il sait d'avance qu'il va pencher du côté de ceux qui ne croient pas que Dieu va les aider. Mais sa première épître, dans sa première épître, l'apôtre Jean écrit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ».